Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Pascal Masserica.
Les titres de l'actualité: des Congolais d'en face ont hissé le drapeau de leur pays sur l'île de Lomé dans la province du Sud-Ubangi. Sur instruction du gouverneur, l'administrateur du territoire de Libengué l'a fait descendre. Le commandant de la 13e région militaire promet d'investiguer au plus vite sur cette affaire. Découverte ce jeudi matin de 5 corps des déplacés du site de Djina qui ont été exécutés dans leur champ par des miliciens de la CODECO. Le président de la société civile locale redoute que ce drame décourage le retour des déplacés dans leur terroir. Notre invité, c'est le porte-parole du département d'État américain. Johannes Monsens s'exprime sur l'insécurité qui sévit dans l'est de la RDC causée par les rebelles du M23. Il revient également sur les mémorandums d'entente signés entre la Zambie et la RDC en présence du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Madame, messieurs, bonsoir. Au Sud Kivu, l'administrateur du territoire de Libengué affirme qu'un drapeau de la République du Congo a été de nouveau hissé sur l'île de Lomé après la première tentative par les Congolais d'en face au mois d'octobre dernier. Antoine Wutu Nongé est allé le faire descendre sur instruction du gouverneur. Il met le gouvernement central devant ses responsabilités. Il a été joint par Paul Richard Malengela.
Avec beaucoup de précision, même hier, les gens sont venus de là, ils ont vu ça. Il y a un autre drapeau dans notre pays, c'est comme cette partie leur appartient. C'est dans le secteur de Libengué Sud, dans une île appelée île Lombé, et le village c'est Wakienze. Dans notre rapport, nous avons fait des recommandations auprès du gouvernement provincial central et aller encore faire descendre ce drapeau. Ce milieu est très stratégique parce que si vous êtes dans ce village, vous voyez de tout. À l'époque de nos villages, c'était un lieu de chantier, c'est-à-dire on venait traiter des dossiers là-bas. Et puis, le mot là, Wakel, ça veut dire caquer, caillou. C'est-à-dire, il y a des cailloux, des caquer là-bas. C'est ça, l'important, c'est. Et chaque fois que le balinière qui vient de notre côté pour passer, il suit ce balinière jusqu'à ce que ça passe le village et il rentre. C'est comme nous sommes surveillés. Il commence à faire des patrouilles. Nous, par contre, on ne fait rien. À l'époque de Mobutu, les militaires savent rester là-bas. C'est pour cette raison que nous demandons qu'il y ait des moyens, on puisse partir pour descendre ce drapeau et mettre notre drapeau.
En réaction, le commandant de la 13e région militaire, le général-major Michel Chora, a promis d'approfondir les investigations et d'en faire rapport à qui de droit pour des dispositions utiles. Rendons-nous maintenant au Nord Kivu où les habitants de Rubaya, une zone minière située dans la chefferie de Baoundé, groupement de Matanda, dénoncent les agressions dont ils sont victimes ces jours-ci de la part des hommes armés. Ils appellent les FARDC et la police nationale à redoubler d'efforts afin de mettre ces malfrats hors d'état de nuire. Le président de l'AVOPADECO, une association de développement local, dénonce également les violations des droits de l'homme par ces inciviques. On écoute Bakorakora Dionysi.
Dans le cité de Rubaya, actuellement vraiment, il y a une insécurité grandissante parce que 19h, 18h30, il y a des bandits nommés Barara qui doivent attaquer la population sans aucune intervention. Il y a le 3 décembre à 19h, dans le quartier de Mateus, des mamans qu'on a coupées avec le machette, on les a ravis leur argent près de l'église catholique de Rubaya. Bon, nous demandons au gouvernement de descendre sur le terrain avec une commission mixte, c'est-à-dire les députés avec la société civile, ainsi que les gens des droits de l'homme, de venir voir la situation qui se passe vraiment actuellement dans la cité de Rubaya. Il y a ce qu'on appelle arrestation arbitraire, les amendes exorbitantes, bon, violation grave des droits de l'homme, parce que tu ne peux pas aller au WC si tu sens le besoin à 9h, tu vas aller à 6h.
Donc là, c'est pour les détenus.
Oui, c'est pour les détenus. Il y a plusieurs personnes qui doivent même terminer 4 jours sans procès verbal, mais ils sont toujours détenus dans des maisons carcérales.
Bakorakora Nionizi, interrogé par Sifa Maguru. Notez que Rubaya est une cité d'exploitation minière d'environ 40 000 habitants où se déroulent d'intenses échanges commerciaux. Cependant, on y enregistre également une forte circulation illégale d'armes. Arrivé ce jeudi matin à Uvira, au sud Kivu, des experts de la cellule opérationnelle du groupe de contact et de coordination des mesures non militaires dans le cadre du suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Cette délégation a pour mission de faciliter le désarmement et le rapatriement des groupes armés étrangers. À Bukavu, elle a rencontré les autorités provinciales et les responsables de la MONUSCO au quartier général de Muhumba. Reportage à Bukavu de Jean Kassami.
D'après les chefs de délégation et conseillers politiques au bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, la cellule va présenter aux groupes armés les garanties nécessaires du moins pour ceux qui vont adhérer au processus de rapatriement d'Oti Koulibaly.
Le mandat de cette cellule, tel que conféré par les pays signataires de l'accord cadre, consiste à approcher tous les groupes armés étrangers en vue de présenter l'opportunité régionale offerte par les pays de la région pour leur désarmement et leur rapatriement sans condition politique.
Les points focaux du gouvernement provincial auprès des Nations Unies encouragent cette démarche qui va aider à un retour à la paix dans l'est de la RDC, gage d'une paix globale dans la sous-région, Sisawa Numbe.
Cette mission, elle est beaucoup plus diplomatique. Nous voulons aussi, au-delà de cela, les bonnes relations entre notre sous-région. Puisque s'il n'y a pas de paix au Congo, il n'y en aura pas dans le pays voisin. Et le Congo, c'est un acteur de développement.
La délégation est composée des experts de la RDC, du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Autre nouvelle en plus bref, en Ituri, 5 corps ont été découverts ce jeudi matin au village de Lotso dans les territoires de Djougou. Les victimes sont des déplacés du site de Djina qui ont été exécutés dans leur champ par des miliciens de la Codeco. Plusieurs habitants des villages proches du lieu du drame ont entendu des coups de feu. Le président de la société civile locale demande à ce que ce groupe respecte son engagement pris pour la fin des hostilités. Dino Gideon redoute que ce meurtre décourage le retour des déplacés dans leur terroir. Revenons un instant au Nord Kivu où le comité international de la Croix-Rouge, CICR, a entamé hier mercredi la distribution des vivres en faveur de 150 000 déplacés de guerre de Kanyaruchinya et du sud du territoire de Lubero. Ceux de Kanyaruchinya vivent dans des sites qui n'avaient pas été encore assistés. À Goma, la correspondance de Rosalie Zawadi.
Au moins 8000 ménages déplacés de Kanyaruchinya vont bénéficier chacun d'une demi-ration de 15 jours constituée de 25 kg de riz, 12,5 kg de haricots, 5 litres d'huile végétale et 500 g de sel de cuisine. Une assistance qui vient soulager ces ménages, comme les témoignent ces déplacés.
Je vous dis, je suis très contente parce que nous étions très affamés et aujourd'hui nous avons à manger. Que Dieu soit loué et qu'il vous bénisse. Nous allons manger et les enfants seront aussi contents. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous souffrions par manque de nourriture et là, vous venez de nous aider. Nous avons de l'huile, du riz, du sel, c'est vraiment bien.
Autour des 7000 autres ménages déplacés qui ont trouvé refuge dans les suds du territoire de Lubero reçoivent eux aussi la même assistance dans les grandes agglomérations comme Kirumba, Miyowe et Kasseye. Notons que cette distribution s'étendra jusqu'à la semaine prochaine. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
On en vient maintenant à la politique. Au sud Kivu, plus rien ne va en ce moment entre le gouvernement provincial et l'organe délibérant. Les députés provinciaux ont rejeté en bloc le projet du budget de 2023 sans l'avoir examiné. Le gouvernement provincial, quant à lui, parle d'un acte sans effet parce que ce projet n'a pas été défendu. Radio Okapi Bukavu, Emmanuel Elamejua Kabidi.
Les deux principales institutions provinciales du Sud Kivu sont à couteau tiré depuis le mois de novembre dernier, mais le bureau de l'Assemblée provinciale a invité le vice-gouverneur à venir défendre le projet de budget 2023 pour hier mercredi 14 décembre. Le vice-gouverneur a décliné l'invitation indiquant qu'il n'a jamais été notifié pour exercer les fonctions de gouverneur. Mais une vingtaine de députés décident de se réunir seuls en plénière. Ils discutent du projet budgétaire qu'ils disent rejeter sans aucun autre détail. Jacques Kamanda, rapporteur.
Comme le dit budgétaire vient d'être rejeté, ce qui peut être appliqué, c'est ce qui va venir dans les crédits provisoires, qui sera examiné par l'Assemblée provinciale pour son adoption et la mise en application.
Le porte-parole du gouvernement provincial qualifie cet acte de théâtre qui ne produira aucun effet, Jérémy Bassimane.
Le gouvernement provincial décide que vous n'êtes pas concerné de ce théâtre qui s'est passé à l'Assemblée provinciale. Ce qui s'est passé n'est que non-événement, c'est de nul effet et ça n'ira nulle part.
Signalons que c'est la deuxième année consécutive que la province du Sud Kivu va fonctionner avec un budget non adopté par les députés provinciaux. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Et puis, le président du tribunal de commerce de Lubumbashi a démissionné de ses fonctions. Laurent Batubenga Ilunga évoque les pressions qu'il subit de la part de Peter Kazadi, avocat de son état et proche du pouvoir de Kinshasa, dans l'affaire qui oppose Pascal Beveragi, responsable des entreprises NB Mining Africa et Octavia Limited, à Moïse Katumbi Chapwe. Des allégations rejetées par Peter Kazadi. Pour en parler, retrouvons à Lubumbashi Jean Ganduka Bongo.
Dans une lettre adressée au président de la République, il indique qu'il subit des pressions par des personnes interposées de la part de maître Peter Kazadi pour qu'il puisse valider les saisies d'attributions attribuées par les sociétés Octavia Limited et NB Mining Africa SA, que M. Pascal Beveragi dirigeait soit contre la société Astal Investment Limited qui appartiendrait à Moïse Katumbi, soit contre les tiers qui auraient payé cette dernière des sommes qu'il détenait dans ces deux sociétés précitées. D'après le juge démissionnaire, maître Peter Kazadi, qui dit agir dans l'intérêt du pouvoir, voudrait que le juge président s'implique en tant que chef des juridictions pour aider à priver, selon ses termes, un adversaire politique des ressources financières qui lui donnerait des moyens de combattre le régime lors des prochaines élections. En cas de refus, il risque de perdre son poste. Au regard de l'ampleur des menaces et considérant que désormais lui et sa famille sont en danger, il a jugé utile de rendre le tablier. Il indique aussi qu'il n'était pas possible pour lui d'accéder aux sollicitations de Peter Kazadi car elles obéissent à une motivation politique et non légale. Maître Peter Kazadi a rejeté toutes ces accusations, arguant qu'il n'est impliqué ni de près ni de loin dans cette affaire et surtout qu'il n'est même pas l'avocat conseil de Pascal Beveragi. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
En quoi consiste ce conflit et comment en est-on arrivé à la démission du président du tribunal de commerce de Lubumbashi? Tentative de réponse avec vous, une fois encore, Jean Gandou Kabongo.
L'affaire qui a été portée au tribunal de commerce de Lubumbashi fait suite à l'exécution de la décision du tribunal de Paris condamnant Pascal Beveragi, responsable des entreprises NB Mining, et Octavia dans le dossier qu'il oppose à Moïse Katumbi. Ce dernier a obtenu l'autorisation de faire exécuter cette décision en RDC. Bien avant, il a fait annuler toutes les autres décisions qui, à l'époque, ont profité à Pascal Beveragi. Ainsi, le tribunal de commerce de Kolwezi avait décidé d'allouer les dommages et intérêts à la partie Moïse Katumbi de l'ordre de 70 millions de dollars américain. Pour se faire payer, Moïse Katumbi a saisi les comptes de Pascal Beveragi auprès des Roachi Mining, Gécamine et Ecobank. De ces 70 millions de dollars américains, Moïse Katumbi s'est fait payer 11 millions. Non contente, la partie Beveragi a saisi le tribunal de commerce de Lubumbashi pour se faire rembourser la somme payée à Moïse Katumbi. Et nous apprenons également que les entreprises Roachi Mining, Gécamine et Ecobank ont été assignées indistinctement en justice par Pascal Beveragi. Et c'est au sujet de ce dossier que le juge démissionnaire indique qu'il subit les pressions. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
La Cour pénale internationale CPI a confirmé en appel ce jeudi la condamnation de l'Ougandais Dominique Ongwen pour crime de guerre et crime contre l'humanité. Cet ancien enfant soldat ougandais était devenu l'un des principaux commandants du groupe rebelle armé de résistance du seigneur Elra. Après une condamnation en première instance en mai 2021, la défense avait fait appel. La juge présidente de la CPI a indiqué que le tribunal va statuer ce soir sur l'appel d'Ongwen contre sa peine de 25 ans de prison ferme. Le Parlement européen a reconnu ce jeudi comme génocide la famine en Ukraine provoquée par les soviétiques il y a 90 ans. Une crise qui a entraîné la mort de plusieurs millions de personnes. Les eurodéputés réunis à Strasbourg aujourd'hui estiment que cette famine a été commise par le régime soviétique dans l'intention de détruire systématiquement un groupe de personnes en infligeant délibérément des conditions de vie menant à leur anéantissement physique. Et puis Washington a annoncé ce jeudi l'adoption des sanctions financières contre Vladimir Potanin, ancien vice-premier ministre de Vladimir Poutine et figurant parmi les hommes les plus riches de la Russie, et contre des dizaines des responsables du gouvernement russe et d'entreprises du secteur financier. Le sous-secrétaire américain au Trésor affirme que cette mesure vise à renforcer l'isolement de la Russie par rapport aux marchés mondiaux.
L'invité.
Notre invité, c'est le porte-parole du département d'État américain, Johann Schorzenstein. S'exprime sur l'insécurité qui sévit ce jour-ci dans l'est de la RDC, causée par les rebelles du M23. Il revient aussi sur le mémorandum d'entente qui a été signé entre la Zambie et la RDC en présence du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Il s'entretient avec Cynthia Bachizina Bizana, notre envoyé spécial à Washington.
Johann Schorzenstein, bonjour.
Bonjour.
Alors, le Congo traverse une situation sécuritaire un peu complexe en ce moment. Le pays n'arrête pas d'accuser le Rwanda de soutenir le mouvement rebelle M23. Face à ce plaidoyer de la RDC, quelle peut être la réponse américaine?
Tout d'abord, si vous permettez, j'ai exprimé mes condoléances pour les pertes de vie suite aux inondations. Je souhaite au peuple congolais que les autres vies qui les victimes soient sauvés et qu'ils reçoivent l'aide nécessaire. Point de vue de la situation sécuritaire, nous mettons le point sur la mise en œuvre immédiate du communiqué du 23 novembre suite au mini-sommet de Luanda. Et nous appelons aussi à tous les partis et les pays voisins à respecter le cessez-le-feu, cesser les hostilités. Et nous appelons pour le retrait du groupe armé M23 et nous soutenons le gouvernement congolais dans cette situation.
Hier, le président Tshisekedi a tenu une réunion avec le secrétaire d'État Blinken. Il a sollicité de la part des États-Unis de maintenir des pressions accrues sur le Rwanda. Comment est-ce que vous pouvez réagir face à cela?
Les États-Unis est en pleine discussion avec tous les pays voisins, tous les pays concernés pour trouver une solution dans la région. Je suis pas en mesure d'entrer dans le détail point de vue des discussions diplomatiques, mais vous pouvez compter sur le fait que nous cherchons à promouvoir une solution, à trouver une solution avec nos partenaires dans la région le plus tôt que possible.
Parlons économie, transition énergétique. Hier, il y a eu la signature d'un mémorandum d'entente entre la RDC et la Zambie. Il y avait aussi le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Pourquoi est-ce que l'Amérique tient à la matérialisation de ce projet pour la fabrication locale des batteries pour voitures électriques dans les deux pays?
Bon, il s'agit de plusieurs aspects de ce problème. Bien sûr, le problème du changement climatique, c'est un problème mondial et il faut s'engager avec tous les pays du monde pour trouver des solutions. Mais aussi, pour l'Afrique en particulier, on voit une opportunité pour que l'Afrique développe le secteur énergétique de façon durable. On parle toujours de nos intérêts partagés, de nos intérêts communs. Et c'est un bon exemple parce que nous essayons nous-mêmes à mener une transformation énergétique, une transformation vers l'énergie verte.
Donc on peut espérer un appui quelconque de la part des États-Unis pour la matérialisation de ce projet? Parce que beaucoup de gens se demandent pourquoi est-ce que le secrétaire d'État Blinken était présent lors de cette signature.
On cherche toujours à trouver des solutions durables et ça veut dire si on va exploiter un minéral ou bien une ressource, il faut le faire de façon durable. C'est-à-dire il faut respecter les droits de l'homme, il faut respecter l'intégrité de la nature et l'écologie. Et de le faire de façon durable pour que ça ne mène pas plus de pollution ou de ça on ne veut pas que ça ajoute au problème du changement climatique.
Mais est-ce que ce sommet c'est une manière pour les États-Unis de récupérer un peu l'espace perdu face à la percée chinoise ou encore la percée russe sur le continent, mais particulièrement aussi en RDC?
Lorsque vous voyez l'agenda du sommet, vous ne trouverez pas de session sur la Chine ou session pour la Russie. C'est parce que vraiment on focalise sur nos relations avec le continent africain. Nous cherchons à trouver la piste vers un avenir plus prometteur pour les relations bilatérales et aussi pour les peuples africains. Il ne s'agit pas de comparer notre politique avec celle de n'importe quel autre pays.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de Radio Okapi, le porte-parole du département d'État américain, Johann Schmonsens, qui s'exprimait sur l'insécurité à l'est de la RDC causée par la présence de rebelles du M23. Il était interrogé par Cynthia Bachizina Bizana, notre envoyé spécial à Washington. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir écouté. Merci à Noëlla Luzitu Kabambi et Alain Irung Mouchich qui m'ont accompagné.